Alors, je voulais lire avec vous le psaume 143. Je suppose que beaucoup d'entre nous le connaissent. J'ai choisi ce psaume pour la simple et bonne raison que cette semaine, en fait, je demandais à Dieu de me répondre sur quelque chose. Et voilà que deux fois d'affilée, alors que je lui disais, si tu pouvais seulement m'envoyer un verset qui concerne ce sujet, et deux jours d'affilée, je reçois exactement mot pour mot ce verset. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que pour moi, et dans mon cœur, j'ai ressenti de vous le partager. Des fois, on reçoit des choses qui sont personnelles, et des fois, on reçoit des choses qui sont pour l'Église. Mais je crois que quand on est amené à amener la parole de Dieu, et je crois que les prédicateurs diront la même chose que moi, on se prêche 10 fois à nous-mêmes avant de le prêcher à l'Église. Je crois que c'est quand même une question d'humilité un minimum, est-ce qu'on est d'accord? Donc on va faire cette lecture. Je l'ai appelée, en fait, elle est titrée dans la version originale Psaume de secours et de demande de direction. Psaume de demande du secours et de direction. Et je crois que qu'on soit enfant de Dieu ou pas, dans nos vies, quand on traverse des moments difficiles, nous avons besoin de secours et nous avons besoin de direction. Donc ce sera un partage très simple. Mais vraiment simple, dans un premier temps, on va lire ensemble. Je vais essayer de lire à l'écran. Est-ce que vous avez des Bibles ou est-ce que vous voulez que je fasse défiler? Je vais défiler? Allez. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie et me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Il met une pause parce que c'est une complainte, je pense. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Et là, c'est le verset que j'ai reçu 2 ou 3 fois cette semaine, qui m'a réellement bouleversé. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Et quelle belle conclusion, car je suis ton serviteur. Voilà, ça va être très simple. Ça va être très simple que je vais partager avec vous. Je vais remonter, on va peut-être décortiquer juste ensemble. Pourquoi? Parce que je crois que c'est une situation, voilà. C'est une situation par laquelle chrétiens et non-chrétiens passent. Je sais pas, des fois j'entends des discours bizarres, j'entends des prédications, des fois où quand on est chrétien, tout est fini, oui, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut plus. J'ai même vu une fois, si tu es chrétien et que tu es malade, c'est que tu n'es pas vraiment chrétien. Si tu es chrétien et que tu subis des attaques dans ta vie, des difficultés, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Mais je crois que nous, chrétiens ou non-chrétiens, nous subissons la même chose, nous subissons les mêmes travers de la vie, nous subissons les mêmes oppressions. La différence, c'est que le chrétien, lui, en marchant, sait qu'il a la solution. Voilà la différence, et que la solution est dans l'éternité, et là-dessus, je ne vais rien vous apprendre. Et la première partie du chapitre, donc, ça semble être une complainte où le psalmiste décrit sa situation. Et comment, cet après-midi, voilà, comment ça nous parle à nous? Parce que lui, il commence avec une prière, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, puisqu'il commence avec une prière d'appel au secours dans un temps de persécution. Et voilà qu'il l'expose et qu'il met à nu sa situation, sa difficulté, sa souffrance. Et il sait que Dieu pardonne. Et on voit au verset 2, ben, il sait que c'est totalement immérité. Aucun vivant n'est juste devant toi. Nous savons, nous qui sommes engagés avec Jésus, qui sommes sauvés par grâce, nous savons que c'est juste immérité. Nous savons qu'aucun homme ne mérite cela. Nous savons qu'aucun homme mérite ni le salut, ni la guérison, ni l'aide de Dieu. Nous ne méritons rien. À la base, nous méritions la mort et c'est Jésus qui est venu prendre cette mort. Et j'aime me rappeler ça à chaque fois que je traverse une situation, c'est que c'est immérité. Mais ce n'est pas parce que c'est immérité que je vais m'arrêter là. Si Jésus est mort sur la croix et que je peux rentrer dans ce tout accompli, pardon, immérité, est-ce que, mon frère, ma sœur, est-ce que tu vas te gêner? Est-ce qu'on va se gêner? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors il a commis une faute, il est pécheur, et souvent même en chemin, nous qui sommes sur le chemin, étroit et resserré, des fois on tombe dans la marche. Mais je crois qu'il est bon de se souvenir, je crois qu'il est bon de se rappeler comment marcher. Le pécheur est là, et on voit que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu, qui connaît Dieu, mais qui sait que la nature du vieil homme, elle est attachée à nous. J'en discutais avec une sœur hier, je disais, mais est-ce que ça t'arrive? Des fois, elle m'a rassuré, elle m'a dit que ça lui arrivait aussi, gloire à Dieu. Mais des fois, je me dis, je fais le bilan de ma journée, et je lis la parole, elle est comme un miroir. Hein. Et je ne sais pas vous, hein, mais moi le matin, quand je me lève comme ça, que la nuit a été difficile, qu'il faut aller travailler, etc., etc., je ne suis pas en mode, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, la Bible, des fois, c'est pareil. Je me dis, là, aujourd'hui, en quoi j'ai été un enfant de Dieu? À quoi j'ai correspondu à des critères qui sont des critères d'enfant de Dieu? Est-ce que ça vous arrive? Ou alors, si on est satisfait, on se dit vraiment, oh, j'ai vraiment été un super chrétien. Surtout ces derniers mois, là, je suis là. Je suis au top. Je crois que j'ai jamais été aussi sain et spirituel de ma vie. Là, il faut, je crois, en tout cas, par rapport à ce que je lis, je crois qu'il faut passer par un certain brisement et une humilité. Et ça nous arrive à tous. Donc, oui, il sait qu'il a commis une faute. Aucun humain n'est juste devant toi. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il n'excuse pas sa faute. Il ne se pose pas en victime. Parce que parfois, vous savez, la philosophie, la psychologie de ce monde va te sortir des excuses à ton péché. Va nous sortir des excuses. Alors en fait, c'est parce que comme tu fais un refus de ton père et de l'éducation, c'est pour ça que tu as... Sauf qu'excusez-moi, mais Jésus, il n'est pas mort pour des victimes, c'est lui la victime. Et c'est nous qui l'avons crucifié. Il est mort pour des coupables et nous sommes coupables. J'ai même une fois une jeune fille d'un groupe d'ados... pas d'ici, hein, mais on l'avait rencontré dans un rassemblement de jeunesse, etc. Et elle me dit, je veux que Dieu s'excuse de ce qu'il m'a fait. Ça, je crois que c'est le message le plus balèze que j'ai jamais reçu. Tu veux que quoi? Dieu s'excuse de ce qu'il m'a fait parce qu'il m'a demandé de quitter mon petit copain pour le suivre. Non mais c'est du vécu, hein. Je savais pas quoi faire. Je me suis mis à parler en langue pendant des heures. Je sais pas. Il y en a un, il est passé par un chemin, il chute, il dit « Seigneur, comment t'as permis que je chute ?» Et des fois, on accuse Dieu. C'est pas vrai. On accuse Dieu, mais là, il reconnaît sa faute. Et il y a une autre réalité, c'est que quand, dans le verset 3 et 4, il y a une réalité qui nous touche, et je crois que ça nous touche tous, c'est que quand justement je parlais de ne pas correspondre à ce genre de critères spirituels, quand on est un peu tombé en route, on commence à culpabiliser. Et on se dit, purée, mais mon caractère, il est horrible, mon comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu auprès de mes semblables, auprès de ma famille inconvertie, mon comportement n'est pas à la gloire de Dieu auprès de mes collègues de travail, auprès de ceux que je côtoie. Et l'ennemi, là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il poursuit ton âme, il fout la terre ta vie, puis si t'es pas terre, il te finit. Il te dit, mais tu vois pas que tout ce que tu as fait là, il vient, il t'accuse, et sans cesse, il vient te répéter, et il vient te faire croire que ton erreur, elle est impardonnable. Qui n'a jamais vécu cette situation ici? Donnez-moi la recette, je la prends à la sortie tout de suite. Et l'ennemi, il vient nous répéter notre erreur, et il vient nous dire, c'est mort. Il vient nous dire, c'est mort, et il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. C'est-à-dire que l'ennemi veut nous faire croire avec des pensées de mort, avec des pensées de culpabilité, avec des pensées d'angoisse, que c'est fichu, excusez-moi, du terme. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, ça tu ne me le pardonneras pas? Mais je pose cette question. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui t'approches de Dieu, dis-moi quel péché Jésus n'a pas crucifié à la croix. Et je me le rappelle à moi-même 10 000 fois avant de nous le rappeler, qu'on soit bien d'accord. Des fois, je suis là, je dis, ah Seigneur, je suis tellement loin. Ah, c'est mort, ça, c'est mort. c'est fini pour moi. Et l'ennemi, il vient, il te réveille pendant ta nuit, il te rappelle, et il te rappelle ta faute, il te rappelle ta chute, il te rappelle ta non-spiritualité, il te rappelle ton caractère, il te rappelle tous tes défauts. Il te rappelle tous tes défauts. Et là, d'un coup, tu sens la puissance du Saint-Esprit descendre et te dire, j'ai tout accompli, j'ai tout crucifié, j'ai tout payé. Sors maintenant de cet esprit de mort. Sors de tes angoisses, sors de tes culpabilités, sors de ces accablements, sors de ces accusations. Est-ce que quelqu'un veut sortir de ces accusations cet après-midi? Je le crois de tout mon cœur. Et je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Du coup, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Et c'est ce dont je parlais. C'est les angoisses qui poursuivent ensuite la suite de l'accusation qui n'est absolument pas divine. C'est la culpabilité qui n'est absolument pas divine. Mon cœur est troublé dans mon sein, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Ça, ce n'est pas le résultat de l'œuvre de Dieu. Qu'on soit bien clair. Donc, je me souviens de là, puissance de Dieu. Quand, vous savez, je disais à quelqu'un tout à l'heure, il m'est arrivé de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Je bénis Dieu, de, malgré mon jeune âge, d'avoir vu des miracles, d'avoir vu des paralytiques se lever, d'avoir vu des gens liés par des puissances de ténèbres être délivrés, d'avoir vu des guérisons, d'avoir vu des choses extraordinaires. Et quand Dieu m'a parlé de manière particulière et quand il m'a visité de manière particulière, je le disais, comme le dit le livre d'Habacuc, écrit la prophétie, j'écris les choses que Dieu a fait. J'écris les choses que Dieu m'a promises et ensuite je m'en souviens dans les moments de trouble, dans les moments où je doute, dans les moments où je doute même, des fois ça nous arrive même, et peut-être tu es dans ce cas cet après-midi, ça nous arrive même de douter de notre éternité, ça nous arrive de douter de l'assurance de notre salut. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons expérimenté la puissance de la croix dans nos vies, nous arrivons avec ces accusations à douter de notre salut en Jésus-Christ. Et je retourne et je repasse ce que Dieu a fait dans ma vie et je repasse ce que Jésus-Christ a fait à la croix et je me rappelle que c'est trop puissant, que c'est trop fort pour que je laisse ces accusations dominer sur moi, pour que je laisse ces pensées la nuit venir me hanter. La puissance de la croix de Jésus doit constamment nous venir à l'esprit, pas comme une théorie, pas comme du par cœur, mais comme une puissance qui rappelle à notre esprit la qualité, j'ai envie de dire presque, mais la puissance de ce sacrifice. Donc, je prie en m'humiliant, parce que j'étends mes mains vers toi, et quand c'est un juif, le psalmiste, et quand on dit « j'étends mes mains vers toi », c'est une question de prière, c'est une question d'humiliation, c'est dans le sens où sur terre, il n'y a plus de solution, donc je lève mes mains vers le ciel, je lève mes mains vers là-haut, d'où me viendra le secours, et mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Il y a des temps dans nos vies où on sent qu'on est sec spirituellement. On sent qu'on est sec spirituellement. Vous avez vu, après il y a écrit une pause. Bon, comment il dit ce chant ? Comme une terre altérée, soupir après du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Voilà un petit cantique en plein milieu de la prédique, c'est bon. Gloire à Dieu, il est trop beau ce chant. Franchement, vous avez une génération qui a écrit des chants, c'est des hymnes. Hein. J'envie votre époque des fois, vraiment. Gloire à Dieu. Non, il n'y a pas de amen, c'est pas grave. Ok, si, merci mon frère. Ok, on continue. Donc en fait, on disait que la première partie du 1 à 6, c'était une complainte. De 7 à 12, là, le psalmiste, il va exprimer sa requête, exprimer sa demande à Dieu. Et c'est comme s'il disait, mais si Dieu n'intervient pas, cette peur de la mort se représente en fait. Et dans la version Semeur, il va carrément dire, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Ça m'est arrivé de vivre des situations d'accusation terribles, de combats spirituels. Vous savez, quand vous vous engagez pour servir avec Dieu, c'est comment vous dire, on ne vous accueille pas avec un tapis rouge, le diable ne vous dit pas, ah, ça y est, tu es dans l'équipe, super, génial, continue, ouais, je vais te laisser tranquille moi. Non, non, on passe des temps horribles. On est levé la nuit, on a des combats spirituels. Vous savez qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, on a lutté contre les puissances de l'air. Et Et l'ennemi ne veut pas nous laisser tranquilles, veut nous faire douter de notre appel, veut nous faire douter de notre salut, veut nous faire douter même de la place que nous avons dans l'Église, veut nous faire douter de plein de choses. Et alors j'étais dans des combats terribles, j'étais oppressé vraiment, voilà. Je dis, Seigneur, si tu n'interviens pas, mais tellement l'angoisse était forte. Là, je me sens bien, je n'arrive même pas à me rappeler comment c'était, mais je me souviens que c'était tellement terrible. J'ai dit, mais vaut mieux mourir en fait que de vivre des angoisses comme ça, à plus respirer, à se torturer. De peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. On vit des nuits de terreur, même en tant qu'enfant de Dieu, et on s'aperçoit que d'un coup, il y a comme une présence de mort, et on commence à avoir peur de la mort, mais Jésus a vaincu la mort. La mort, c'est juste la suite logique du croyant, de l'enfant de Dieu qui passe dans l'éternité. C'est un moment de gloire. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Mes yeux verront Jésus. Je parlais avec un ancien, il me disait, la semaine dernière, j'ai eu un gros problème de santé, j'ai cru que j'allais mourir. Il me dit ça en souriant. J'ai dit, ah ouais? Il me dit, ouais, mais moi, je croyais que j'allais voir Jésus, j'étais content. Eh ben, c'est pas encore mon heure. Ok. Voilà la différence quand on est engagé avec Dieu. La mort nous est un gain. Quelle grâce. Ça va, vous êtes toujours là? On peut. Donc, je finis juste de décortiquer cette première partie. Hein. On se souvient, et ce texte, il est comparé aussi à celui de Jérémie, parce que fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Et on se souvient que, ben en fait, dans ces moments-là, que ces solutions, on se souvient de ce verset très connu, que ces bontés se renouvellent chaque matin. C'est un petit verset tranquillou, mais quand tu es dans la galère, là, le petit. Tes bontés se renouvellent chaque matin, tu le saisis, tu le prends et tu veux le vivre. Hein, quand tout va bien, ah Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Mais quand tu as pleuré toute la nuit, quand la maladie est venue frapper à ta porte, tu dis Seigneur, merci parce que tes bontés sont infinies. Et dans tes bontés, il y a une solution infinie à n'importe quel de mes problèmes. Dans tes bontés, il y a une puissance qui peut se manifester à la seconde où ta bouche va parler, ta main va agir. Mes angoisses vont se taire, mes craintes vont se taire, ma maladie va se taire, mes soucis financiers vont se taire au nom de Jésus. Et le Seigneur peut intervenir de milliards et de milliards et de milliards de manières, dans des milliards et des milliards de problèmes, de manière infinie. Infinie. Nous limitons Dieu à cause de notre petit cerveau, excusez-moi de parler ainsi, mais ses bontés se renouvellent chaque matin. Et la puissance de Dieu, je dirais même, se renouvelle chaque matin. Donc on se confie en lui, on lui demande de prendre la direction de notre vie parce que malgré tout, il utilise ces moments-là de galère comme il est décrit le psalmiste, il utilise ces moments de galère pour que nous puissions nous tourner vers lui, pour que nous puissions ne pas l'oublier. Et quand on prend la bonne direction, ces moments de galère, nous les traversons avec lui à nos côtés et on va lui exposer notre vie, on va lui exposer l'état de notre être, qu'il soit pour nous une délivrance et un refuge. Élève à toi mon âme, délivre-moi de mes ennemis. Ouais, c'est bon, je suis. Auprès de toi, je cherche un refuge. Qu'on soit clair avec Dieu, comme il nous a montré cette première partie, sois clair, soyons clairs avec Dieu, soyons vrais. On ne peut rien lui cacher. Quand on vient dans sa présence, on ne va pas faire « Seigneur, j'ai été pas mal spirituellement cette semaine, si je peux faire un bilan ». Là, ça n'a pas été... Non, on est vrai. On est vrai. Seigneur, là, je sais quoi, je n'ai même pas pensé à toi. Pardonne-moi. J'ai besoin que tu me renouvelles. Je viens dans ta présence, je ne mérite rien de toute façon. Je ne mérite rien. Mais toi, dans ta bonté, dans ta miséricorde, waouh, tu as la solution. Et le deuxième point que je veux aborder avec vous, vous êtes toujours là. Je ne veux pas être trop long. Non, il n'y a plus... Si ? Elle est où l'image ? Ok. Monsieur Pascal, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le deuxième thème, en fait, c'est le... Parce que là, on était du coup au verset 9 et le verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi. Et là, ça m'a frappé. Et je vais vous parler un peu d'hébreu, d'accord ? Mais c'est pas... Je ne vais pas vous parler hébreu. Hein. Vous savez que j'aime bien mettre de temps en temps un petit mot d'hébreu comme ça. Pourquoi ? Pour aller voir ce que le texte original nous dit. Tout simple. Ok ? Quand il est écrit « Enseigne-moi à faire ta volonté », il y a une lettre en hébreu qu'on appelle l'Amed. C'est elle que vous voyez. C'est elle que vous voyez. L'Amed, c'est le nom de la lettre, a donné le mot « Lomed » qui veut dire « enseigner »,« instruire ». Et c'est du coup la lettre du premier mot de « enseigne-moi ». Et en fait, pourquoi je vous parle du lamed ? C'est simple parce que l'hébreu, Quand Jésus dit il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, c'est parce que Jésus sait très bien que quand la parole de Dieu s'est révélée à Moïse, elle s'est révélée en hébreu, et que la moindre lettre, jusqu'à sa forme, jusqu'à son dessin, parle. La moindre lettre, dans la moindre lettre de la parole de Dieu, il y a une puissance. La moindre virgule, je disais, dimanche, on a parlé de Zachée, la moindre lettre, la moindre virgule, la moindre parenthèse, il y a une puissance dedans. Et ici, la lettre, je vais vous parler juste de ce dessin-là, la lettre Lamed, qui veut dire l'enseignement, parce qu'à elle seule, elle a un enseignement important. Elle est surnommée, j'ai l'image, alléluia. Non, je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. J'en avais une autre, en fait, à la base. Mais je crois que je ne l'ai pas rentrée. C'est pas grave. En fait, elle est surnommée... Reviens, s'il te plaît. M'abandonne pas. Non, c'est pas grave. Elle est surnommée, l'aiguillon de l'amour. Elle est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Ça veut dire que quand on écrit, il y a tout à la même hauteur, mais elle va passer au-dessus des autres lettres. Et en fait, la partie inférieure de la lettre, en fait, ça représente le corps, ok ? Et la partie supérieure, elle nous relie vers le haut. C'est-à-dire que l'enseignement de la parole de Dieu, quand il vient, il nous pique, il nous touche, et il nous amène, et il fait une jonction directe vers le ciel. Il y a une importance primordiale dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a des milieux aujourd'hui qui vous disent « Oui, le Saint-Esprit, c'est trop bien l'enseignement, c'est pas grave. » Quelle folie ! Quelle folie ! Je suis tellement content d'être dans une église comme celle-ci où l'enseignement est au cœur de la volonté des croyants. L'enseignement de la parole de Dieu ne peut pas être une option. L'enseignement doit être au centre de nos vies. Parce que je disais donc que cette lettre relie vers le haut de la connaissance une jonction vers le trône de Dieu. Et vous remarquerez que la lettre que j'ai affichée tout à l'heure, elle ressemble à un trône. Il n'y a absolument pas de hasard dans la parole de Dieu, jusqu'à la moindre virgule. Elle nous amène vers le trône de Dieu, elle symbolise une connaissance infinie, ce qui veut dire pour le croyant que le croyant qui de 7 à 120 ans, il y a toujours des enseignements. Jusqu'à notre dernier souffle, Dieu, au travers de sa parole, même si on l'a lu 8000 fois par jour pendant 70 ans, Dieu a toujours un enseignement à nous donner. Il a toujours une solution, il a toujours quelque chose qui vient nous surprendre. Malgré mon jeune âge, depuis tout petit, j'entends la parole de Dieu dans les textes originaux. J'ai visité les sites bibliques, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Ça ne veut rien dire, hein, je ne suis pas superstitieux du tout. En face du village de Bethel, j'avais la Bible en face de moi, en relief, mais je ne la connais pas aussi bien que vous. Je vous le dis, je vous le redis. Et cette jonction qui va vers le trône de Dieu, pardon, elle dépasse l'intellect. La lettre Lamed, elle va dévoiler les sciences, les enseignements cachés des textes et nous aide à découvrir la nature du Dieu invisible. Cet après-midi, j'ai envie de te dire, c'est bien de venir dans la maison de Dieu, c'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est bien de chanter des cantiques, mais le meilleur moyen pour que Dieu te parle dans ta chambre, le meilleur moyen pour qu'il y ait une solution à tes problèmes, une solution à tes soucis, c'est que Dieu, via son Saint-Esprit, vienne te parler dans son enseignement, le trésor le plus magnifique qui nous reste sur cette terre, le plus beau des livres, le plus lu au monde, gloire à Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est avec ça qu'il veut te parler. Il y a trop de gens, on se connecte sur Internet, on écoute 8 prédications par jour, on écoute 200 enseignements à droite, telle église, tel machin, tel truc, on ne sait même plus entendre la voix de Dieu, on croit l'entendre partout, et en fait on l'entend nulle part. Parce qu'en fait Dieu, le premier endroit où vous nous parlez, Jésus, c'est dans notre chambre quand on ouvre la parole de Dieu. C'est bien écouter des prédications modérées, équilibrées. Je dis avec beaucoup d'amour. Hein. Vous êtes toujours là ? Donc, la réponse à toutes les supplications que fait le psalmiste ici, elle vient donc du Lamed, de cette lettre qui symbolise l'enseignement divin. Et vous savez quoi, en plus, qui est merveilleux ? Si vous arrivez à la réafficher, c'est super. Elle a une forme d'un aiguillon, c'est-à-dire un bâton de berger qu'on utilisait, pas celui qu'on a à l'apéro ici, le bâton de berger... Ok, pour le troupeau, on est d'accord, hein ? Je connais les Français, et... je sais qu'on aime beaucoup la nourriture, alléluia, moi j'ai le droit d'en manger depuis qu'il y a eu la grâce, gloire à Dieu. Elle a la forme d'un aiguillon, donc un bâton de berger utilisé au Moyen-Orient, non pas pour châtier, mais pour stimuler. Et ce bâton de berger, cet aiguillon, ben, il a donné en français le mot aiguiller. Tout simplement parce que la lettre lamed aussi, regardez, elle ressemble à cet aiguillon. Elle veut aussi dire prendre une direction. Voilà ce que veut dire cette lettre. Les directions que tu as à choisir pour ta vie, elles ne sont pas dans les 10 millions de prédications que tu vas écouter, elles ne sont pas dans les coachs personnels, là, comment trouver un avenir parfait, épanoui, je ne sais pas quoi. Elles sont ici. La direction pour ton éternité, déjà, elle commence ici. La direction pour tes décisions, pour ta famille, pour ton foyer, pour ton avenir, ça se trouve dans la parole de Dieu. Nulle part ailleurs, mon frère, ma sœur. Elle se trouve aussi, bien sûr, quand on se réunit ici, que les dons spirituels se manifestent. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est parce que les dons spirituels viennent de l'enseignement de la parole. Hein. Je veux dire, ils sont pas... C'est pas nous qui les avons inventés. Enfin, heureusement. OK, on est... Ça va, c'est clair, hein. Je ne veux pas partir dans tous les sens, mais je disais que sa signification veut aussi dire prendre une direction. Que ton bon esprit me conduit sur la voie droite, c'est donc pas simplement un enseignement théorique, je dirais même puritain et moralisateur. Mais le Lamed, en fait, c'est un enseignement qui élève tous les hommes, quels que soient nos niveaux intellectuels, scolaires, sociaux. Il nous élève au-dessus de notre intellect. Sa parole, mon frère, ma sœur, est esprit et vie. Ce matin, quand Joël y prêchait et qu'il parlait du fait d'être convaincu par le Saint-Esprit, j'ai dit « Yes !» Depuis toute la semaine, je pensais à ça. J'ai dit « Gloire à Dieu !» C'est le même esprit qui parle ici. Waouh ! En fait, l'Amed, vous avez vu comme il est fait, il nous amène au ciel via un accès, via un processus qui est surnaturel. Je m'exprime. En fait, si vous voulez, à la base, elle était composée de deux lettres. Et la lettre que vous voyez au-dessus, là, en fait, voyez le bas. Je n'ai pas de laser, sinon je voudrais... Mais la lettre qui est en bas, là, donc elle représente le trône, elle représente le corps, etc. Mais la lettre qui est au-dessus, dans l'hébreu original, c'est un clou. C'est un clou. Et cette même lettre, on la retrouve dans le nom de Jésus, depuis les temps anciens. Les clous de Jésus étaient déjà prévus, depuis les temps anciens. Les clous étaient déjà enseignés dans la parole de Dieu. Ils étaient déjà présents dans la Torah. Et ce clou nous rappelle forcément le sacrifice de Jésus. Et on constate dans cette lettre, qui emprègne de spiritualité, qu'on peut comprendre le sacrifice de Jésus que par la puissance du Saint-Esprit. On peut comprendre la nouvelle naissance que par la puissance du Saint-Esprit. Je relis que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. Il y a une parole pour quelqu'un cet après-midi, je le crois fermement. Il y a des choses que tu ne comprends pas avec Dieu. Il y a des choses sur le salut, tu ne comprends pas l'éternité. Tu ne comprends pas Jésus mort sur une croix. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te le révéler. Aucune théorie, aucun enseignement, aussi théologique soit-il, s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit qui vient t'enseigner, tu ne pourras pas comprendre ces choses-là. C'est des mystères cachés qui sont révélés seulement par la puissance du Saint-Esprit. On lit juste, et j'arrive à la fin de cette pensée-là, mais dans Jean, je l'avais noté sur le téléphone, ça va plus vite, dans Jean chapitre 3, vous savez quand c'est le verset le plus connu des évangéliques. Mais juste avant, qu'est-ce qui se passe? Jésus parle avec Nicodème. Nicodème, son nom qui veut dire avancé, parce qu'il est avancé dans les Écritures, c'est un intello. Il n'a pas compris la nouvelle naissance. Il connaît la Torah par cœur. Il connaît les écrits par cœur. Et il n'a pas compris la nouvelle naissance. Tu peux connaître la Bible par cœur. Tu peux connaître le monde évangélique par cœur. Tu peux connaître les chants évangéliques par cœur. Tu peux reconnaître le parler en langue. S'il n'y a pas eu une nouvelle naissance qui vient d'en haut, il ne se passe rien. Jésus lui répondit, en vérité, donc c'est le verset 3, Jean chapitre 3, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent, Le vin en hébreu, c'est la même chose que l'esprit. Y a pas, c'est le même mot. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce que tu as envie d'être visité par le vent de l'esprit qui vient te rappeler peut-être des principes basiques de la parole de Dieu? Nous devons tous des fois revenir à des principes. Cet après-midi, c'est simple, hein, y a rien d'extraordinaire. On a besoin d'être régénéré par le Saint-Esprit tous les jours, que les bontés du Seigneur, que son enseignement soit régénéré chaque jour et chaque jour par la puissance du Saint-Esprit. Que jamais je tombe dans un dogme théorique, que la Bible soit juste un manuel de dogme, tu fais et tu ne fais pas, mais que son Saint-Esprit vienne et me conduise sur la bonne direction, sur la voie droite. Et cette voie droite, elle n'est accessible que grâce au clou qui a été planté sur le corps de Jésus-Christ. Ces clous-là qui ont été plantés sur le corps de Jésus-Christ, c'est ça, c'est ce sacrifice-là qui nous amène. Et j'aimerais te dire, comme je le dis souvent, il y a un chant qui parle de ça, un chant gospel qui dit « Ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus-Christ, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, c'est l'amour qu'il avait pour toi, c'est l'amour qu'il avait pour moi, c'est l'amour qu'il avait pour tous ici réunis et nous appelait par notre nom déjà. Il connaissait pour qui il allait mourir, il savait pour qui il allait mourir, toute l'humanité et nous en faisons partie. » Et ça, c'est la plus belle des choses que je peux entendre dans ma vie. Il n'y a rien de mieux. Et je n'ai pas envie de l'intellectualiser. Je n'ai pas envie d'être gavé par ce message. J'ai envie que le Saint-Esprit vienne me le rappeler. Ok. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais je regarde la montre. Je ne vais pas être trop long. En fait, la dernière pensée que j'avais... C'était ce chemin, cette voie qui est prise via son Saint-Esprit nous mène à connaître ce nom merveilleux. Et à cause de ce qu'il est, le Saint-Esprit nous révèle l'identité de ce Dieu invisible. Et à cause de ce qu'il est, on peut lui demander avec foi et assurance de retirer notre âme de la détresse. Le verset 11, « Retire mon âme de la détresse ». Et autrement dit, dans la version Semeur, « Délivre-moi de mes angoisses. Dans ta bonté, fais périr tous les oppresseurs. » Tous les oppresseurs. Le mot « oppression », c'est exactement le même mot que l'Égypte. Parce que des fois, nous sommes, comme les Hébreux étaient en Égypte, esclaves des Égyptiens. Nous sommes esclaves de nos pensées qui nous assaillent. Nous sommes esclaves de nos pensées qui nous oppressent. Nous sommes esclaves de notre entourage qui nous accuse de ne pas être des chrétiens dignes de ce nom. Nous sommes esclaves de nos angoisses. Nous sommes esclaves de nos peurs. Nous sommes esclaves de nos craintes. Mais il nous libère. Il nous libère. Et au nom de Jésus, je crois que cet après-midi, les victoires sont remportées et nous pouvons avoir la même conclusion que le psalmiste. Non seulement il délivre nos âmes, non seulement il guérit nos âmes, non seulement il restaure nos âmes, et nous pouvons dire avec foi, et même je dirais sans aucune accusation, finir comme lui, je suis ton serviteur. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Que ces pensées de l'ennemi ne t'empêchent pas de servir Dieu en toute liberté. Que ces pensées de l'ennemi ne t'arrêtent pas dans la marche que tu as entreprise avec Dieu. Que ces pensées ne te coupent pas. Continue de marcher. Peut-être que oui, c'est décevant, peut-être la chute qu'il y a eu sur ton parcours avec Dieu. On a tous des chutes, on a tous fait des erreurs, mais il est là pour nous reprendre, il est là pour nous restaurer, il est là pour nous conduire. Et si Jésus, lui, nous pardonne, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Satan n'a plus le pouvoir de t'accuser, Satan n'a plus le pouvoir de m'accuser. Et je conclue en disant, on l'a vu, la première pensée, c'était de mettre à nu notre situation à Dieu. On s'humilie, sachant que de toute façon, il nous pardonne, même si c'est mérité. Bien sûr qu'on ne profite pas de cette liberté pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, qu'on soit clair. Hein. Mais malgré les attaques, on persévère. Malgré les angoisses, on persévère. On se souvient de sa bonté. On exprime notre requête. Et la réponse, la deuxième pensée, c'était qu'elle vient de cet aiguillon qui n'est pas là pour nous châtier. La parole de Dieu n'est pas là que pour nous châtier, pour nous frapper. Elle est là pour nous stimuler, pour nous ramener. Nous sommes un troupeau. Nous avons besoin que le bâton de berger il vienne et qu'il nous remettre sur de bons rails et constamment dans notre marche chrétienne. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de comprendre les choses de Dieu via l'enseignement, mais cet enseignement doit être complètement empreint du Saint-Esprit, empreinte du Saint-Esprit, chaque jour et chaque jour et chaque jour. Et la dernière, c'était à cause de son nom, à cause de ce nom, El Shaddai, le Dieu puissant, j'ai la délivrance. À cause de ce nom, cet après-midi, tu es délivré. C'était un psaume de demande de secours, de demande de direction. Nous sommes dans la présence de Dieu. Son Saint-Esprit est là. Demande-lui le secours. Demande-lui la direction. Elle est là. Amen. Frédéric, je te laisse finir si les gens ont besoin de prier. Tu veux qu'on ait un appel peut-être ? Ok. Ok. Si quelqu'un a besoin d'une direction, on va prier pour ça. Si quelqu'un a besoin du secours de Dieu, on va prier pour ça. Il y a des chrétiens, vous, j'ai ça dans mon cœur, vous êtes tellement accusés. Et c'est comme ça s'est transformé, par l'enseignement s'est transformé comme puritain et moralisateur. Et vous dites, purée, je ne corresponds pas à cette morale. Et tu te sens culpabilisé, tu ne peux pas en parler, tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, tu as peur d'être jugé. Jésus, lui, ne te juge pas. Jésus ne te juge pas, il ne t'accable pas. Il a crucifié ton péché. Oui, il a vu ton cœur repentant, mais sûr qu'il faut qu'il y ait une repentance. Il voit ton cœur repentant. Il veut te rétablir. Il veut te restaurer. Et peut-être que tu as besoin d'une direction. La direction, elle n'est pas en cherchant à droite, à gauche. Elle est dans la parole de Dieu. Peut-être une direction pour des projets familiaux, une direction pour des projets immobiliers. Dieu peut parler, Dieu veut parler, Dieu veut te répondre. Qui a besoin, on peut prier ensemble, juste manifestez-vous. Simplement en levant peut-être la main à votre place. Alléluia. Oui. Oui. Dieu vous bénisse. Alléluia. Jésus, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, tu réponds. Amen. Amen. Jesus, call to stand alone. On va prier. Peut-être l'Église peut prier avec moi, s'il vous plaît. On veut prier pour nos frères, on veut prier pour nos sœurs. Tu vois, Seigneur Jésus, il y a besoin de secours. Seigneur Jésus, tu vois ceux qui sont oppressés par les accusations de l'ennemi, qui sont oppressés par un idéal chrétien auquel ils doivent ressembler. Seigneur, mon secours est en toi. Notre secours est en toi. Jésus, maintenant les accusations se taisent, les angoisses se taisent, les insomnies se taisent, les craintes, l'oppression se taisent. Au nom de Jésus, tu lâches, l'ennemi n'a aucun mot à dire. Il n'a plus de mot à dire. Jésus l'a vu chuter du ciel. Jésus l'a vu chuter du ciel. Il l'a vu chuter et il ne peut plus se présenter devant le trône de Dieu pour t'accuser. C'est fini, il a été vaincu à la croix. Et si tu as besoin d'une direction, tu as besoin d'être aiguillé par la parole de Dieu, Dieu peut te la donner cet après-midi. Seigneur, je te prie de répondre par un songe, par un don spirituel ou simplement par un verset. Seigneur, quelqu'un a besoin d'une direction cet après-midi. Et il ne sait pas comment aller, où aller. Peut-être il y a une situation professionnelle, Jésus, tu dois répondre. Seigneur Jésus, tu vois les orientations professionnelles aussi, tellement importantes de nos jours. Je te prie au nom de Jésus, mets ton sceau sur mon frère, ma sœur, qui cherche du travail, qui cherche une orientation. Au nom de Jésus, merci parce que tu vas répondre dans la semaine, dans les jours qui viennent. Tu es le Dieu de l'impossible. Tes bontés se renouvellent, non seulement chaque matin. Ta puissance est illimitée. Et je te prie pour les malades. Alléluia. Si tu es malade, juste mets ta main sur ton épaule, discrètement. On n'est pas que des superstitieux de l'imposition des mains. Mais tu es malade dans ton corps. Au nom de Jésus, je commande aux articulations, aux maux de dos, aux maux de tête, aux cervicales, aux maladies, quelles qu'elles soient. Au nom de Jésus, disparaît. Disparaît de ce corps. Je crois. Nous croyons à la guérison divine. Au nom de Jésus, il y a le salut dans la croix de Jésus, mais il y a aussi la guérison. Nous voulons la saisir dans ce tout accompli, selon Ésaïe 53. Au nom de Jésus, les malades sont guéris.